Jean Rameau, La vie comme elle pourrait être. Monsieur et Madame Durand, D'URND, se parèrent ce soir-là de leurs plus beaux habits et sortirent. Ils étaient invités à aller prendre un bain chez la comtesse Duval, une célèbre mondaine qui donnait de magnifiques bains de gala tous les vendredis et qui réunissait à ses solennités tout ce que Paris avait de peu jolis garçons et de femmes illustres dans la finance, la boxe, le chausson, les arts et la ventriloquie. Madame Durand était une de ces jeunes femmes dont la beauté fait sensation. Grande, grosse, bouchant divinement, avec une taille puissante de rhinocéros, bien nourrie, on sait que c'est là les marques distinctives de la beauté chez les Perses, elle se trouvait pas de cruelle, comme on dit, et l'on comptait par douzaines les enlèvements de ténors et de jeunes princes qu'elle avait opérés avant son mariage avec le baron Durand. Le baron, lui, était un homme très distingué et très honorable, un baron de la République, qui maniait le bol de vitriol comme pas un sur le terrain, et qui passait pour être intraitable sur les questions d'honneur. C'est du reste que la suite de ce récit m'a démontré. Quand M. et Mme Durand entrèrent dans la grande salle de bain de la comtesse, la fête était déjà dans tout son éclat. Le salon, pour bain de pied surtout, présentait un coup d'œil féerique. C'était un ameublement sévère de style Henri II, rehaussé çà et là par des bouquets de champignons, d'un effet très ornemental. Sur les étagères et les supports resplendissaient sous les coups de la lumière cuite des vases et des milliers de bibelots divers provenant directement de Clignancourt et du quartier Pigalle, et de toutes parts, aussi loin que les regards pouvaient aller, on apercevait que chevilles charnues et orteils langoureux se baignant élégamment et flirtant en cadence au son d'une musique délicieuse tirée par Maître du quatrième acte de Guillaume Tell. « Monsieur Durand, voulez-vous me faire le plaisir de prendre une douche avec moi ?» demanda une jeune fille du meilleur monde au nouvel arrivant. « Mais avec empressement, mademoiselle, répondit Monsieur Durand en rougissant un peu. » Et il inscrivit le nom de sa cavalière sur un petit carnet d'ivoire qu'il portait sur le sein gauche. Et à peine le baron Durand avait-il accepté cette invitation, qu'une femme masquée, dont la poitrine était si bien cachée que personne ne l'a reconnue, lui pinça le coude d'un air d'intelligence. Sur le quatrième trophée de champignon, à gauche, un billet pour vous, chuchotait le masque à l'oreille de Durand. Le baron courut au trophée indiqué et trouva effectivement un billet. Voici ce qu'il y lut. « Monsieur, un de vos indignes amis vous déshonore avec votre femme. Allez dans la serre et vous en aurez la preuve. » Une amie scandalisée. « Qu'apprends-je ? » rugit Monsieur Durand, dont le sang fit un tour dans les veines. Ayant remarqué un canapé derrière lui, il se laissa tomber et s'évanouit. « Ah, je me vengerai !» hurla-t-il en reprenant ses sens à propos, et décochant une barbacane, une hallebarde d'une panoplie, il se dirigea à pas de renard vers la serre susdite. Il arriva, et aussitôt ses cheveux se hérissèrent d'horreur. Vengeance et mort, oh, c'était vrai! Une sueur froide lui perla au front. C'est derrière un énorme cactus que cette abomination s'accomplissait. Il arriva, et aussitôt ses cheveux se hérissèrent d'horreur. Vengeance et mort, c'était vrai! Une sueur froide lui perla au front. C'est derrière un énorme cactus que cette abomination s'accomplissait. Il écouta. Cruel, disait Madame Durand à son indigne partenaire, vous voulez donc que je meure de désespoir? Frissonnant, son mari attendit la réponse. Oh non, ce serait trop horrible, terrible, dit-il, les dents entrechoquées. Grand Dieu! Je puis le croire encore. Madame Durand continuait. Oh, de grâce, un baiser, un seul, monsieur, un seul, Gontran. Pauvre femme, soupira le baron. Et une larme d'attendrissement lui mouilla les yeux. Un seul, par pitié. Non, non, mille fois non, répondit l'ami de Durand en se débattant. Oh le lâche! Vociféra le mari, apparaissant tout à coup son arme à la main. Alors, vous refusez d'embrasser ma femme? Je refuse, répondit l'ami en baissant la tête. C'est-à-dire, reprit Durand, dont les prunelles s'injectaient, que ma femme est laide, affreuse, inavouable, et que moi, qui l'embrasse, je ne suis qu'un sot. Et le mari, outragé, se faisant justice lui-même, étendit le coupable à ses pieds. Ciel, qu'y a-t-il? Dans le flot d'invités qui fit irruption de toutes parts, Monsieur Durand ne répondit pas. Seulement, se sentant déshonoré et ridicule pour la vie, il prit fiévreusement la hallebarde et essaya de la passer au travers du corps. Malheureux, arrêtez! S'écria l'assistant sans cœur. Tout le monde avait deviné. Baron Durand, relevez le front. Votre honneur va recevoir une satisfaction éclatante, proclamèrent les hommes avec un touchant frisson. Et pour consoler leur vieil ami, ils allèrent tous faire de propositions à Madame Durand. Le baron hocha la tête. Oh, la réparation aura lieu en public, lui dit alors dans le plus joli garçon de l'assistance au nom de ses camarades. Et le procès-verbal sera envoyé à la presse. Ah, mes amis, éclata Monsieur Durand en se jetant dans les bras des invités, et les yeux débordant de larmes, de joie, il jugea que la réparation serait insuffisante, et se décida à vivre.